Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, merci d'écouter RTL. C'est, bah écoutez, votre 13h32, c'est le moment aujourd'hui de se cultiver, de se divertir, de s'amuser avec Clémentine et Lolo. Comment allez-vous Clémentine?
Ça va bien? Très bien, Laurent, oui, puis aujourd'hui c'est un beau jour hein, pour les Anglais, en tout cas, alors souvent...
Ah, je croyais que vous alliez parler de maman, non, de ma mère, de Gigi. Oui. Ah, oui. Bonne fête maman.
Bonne fête à nos mères respectives, oui, voilà. Vous avez raison, on la faut filer.
Non mais dites donc,
et à la
vous connaissez la mienne, elle va me prendre pop, 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 hein. Pardon, à la reine d'Angleterre, vous dites...
Elle va vous montrer qui c'est Raoul, Gigi, hein.
Éclaté au parpillot, quatre coins de Paris, façon puzzle. Dites-moi, Clem, vous parliez de la reine d'Angleterre aujourd'hui. C'est pas
oui.
Vous
La reine d'Angleterre...
On vous attend sur la Tamise cet après-midi.
Adieu ne plaise. Non, mais j'aurais bien été ramé dans un petit dinghy.
Bah, attendez, on va ramer pendant une heure, là.
Derrière le Bélème, là, oui. Allez, c'est parti.
Bon, les amis, ils se sont inscrits sur RTL.fr ou en direct. Aujourd'hui, c'est Jules qui est avec nous au 32-10. Vous pouvez nous appeler, tout ça est en direct, vous inscrire. Pour le grand quiz, intégralité des livres historiques Larousse, il y aura l'ordinateur portable. Il y a également un séjour et petit déjeuner à l'hôtel. Pourquoi j'ai mis petit déjeuner? Oui, évidemment. À l'hôtel des îles Barneville-Carteret. Vous n'aimez pas quand je le prononce Barneville-Carteret.
Ah, si, si, c'est très bien.
Ah, mais j'aime bien aussi. C'est dans la Manche, vous voyez? Entre Cannes et Menton, il y a la Manche. Membre de la chaîne d'hôtel de charme, symbole de France. Que vous dire sur cet hôtel? Mais il est beau, on l'a mis sur RTL.fr, c'est beau quoi. C'est sur la baie du Mont-Saint-Michel, pas très loin de Caen.
Et puis nos joueurs ne seront pas loin, Laurent, d'après ce que je vois.
Mais dites-moi, oui, ils sont à Lannion, Côte d'Armor, vous avez bien vu. Ils se sont inscrits tous les deux. On va commencer avec Alain, qui est le papa, me semble-t-il. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Laurent.
Bonjour Alain, des
bonjour Clémentine. Hein,
c'est la fête des mères aujourd'hui, faites gaffe.
Oui, oui.
Alain, vous vous intéressez à quelle période de l'histoire?
J'ai précisé le 19e, mais toute la période, toute est histoire, donc...
Ah, toute l'histoire vous intéresse. Voilà, ah ben voilà une bonne chose. bravo Alain, vous vous êtes inscrit avec votre fille Pauline, qui est avec nous. Bonjour Pauline.
Bonjour Laurent, bonjour Clémentine.
Bonjour, bonjour ma cocotte.
Pauline, quel âge as-tu Pauline?
J'ai 11 ans et demi.
Tu es en classe de 6e?
Oui.
Et c'est toi qui as inscrit ton papa, me semble-t-il?
Oui, c'est
RTL. Ah, très bonne idée. Ça, c'est une idée géniale.
Allez bien, Pauline. Elle a dit à son papa, tiens, on va jouer tous les deux avec Clémentine et Lolo. Pauline, quelle est la période de l'histoire qui t'intéresse?
Ben, moi, j'aimais bien l'Antiquité gréco-romaine, donc j'ai choisi ça.
Oh, dis donc, s'intéresse à des choses, Pauline, quand même. Vous habitez Lannion tous les deux, c'est dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Évidemment, Pauline et Alain, on vous souhaite le meilleur, et notamment d'avoir ce bonus.
Oui, un petit bonus, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que Côtes d'Armor, Antiquité romaine, Reine d'Angleterre, là, soyons créatifs. Ah bah oui, Britannicus, par exemple.
Allez, allons-y.
Ah, puis on adore, hein, ça, de toute façon.
Ah, ça,
c'est un de nos bonus préférés. Hein.
Qu'est-ce que c'est beau.
Bon, et ben, au revoir.
Celui-là, il est magnifique. Voilà, c'était rien que pour entendre, voilà. Vous voyez, donc ça nous plaît, nous. Ça nous met des joies. C'est un bonus Britannicus, et c'est vrai qu'on adore ça, cette musique, les bagades. Alain et Pauline, voici vos trois questions pour obtenir ce bonus que vous utiliserez évidemment à votre gré. Êtes-vous prêts tous les deux?
Oui.
Voici la première question, Pauline et Alain. Quel grand aménagement parisien a été réalisé par Fulgence Bienvenue, ingénieur né en 1852 à Uzel, dans les Côtes d'Armor?
Le métro.
Oui, bravo Pauline.
Et Pauline, elle habite les Côtes d'Armor. Hein. Oh, je l'entends, le métro. C'est fermeture de porte. Voici votre seconde question. Où Napoléon Ier affronte-t-il une coalition le 18 juin 1815?
Waterloo.
Alors là, ça c'est encore une question de notre réalisateur qui cherche à m'énerver.
Mais en tous les cas, Pauline, elle ne s'est pas énervée sur la question. Elle a bien répondu. Elle est magnifique, Pauline. Bravo. Selon la légende, l'enlèvement de quelle femme va déclencher la guerre de Troie?
Moi, j'aurais mis de quelle femme l'enlèvement va-t-il déclencher la guerre de Troie? Et toc, ça vous apprendra,
tiens.
Claude, pour Waterloo.
Attends, on va aider un peu. Enlevé par Paris, prince troyen, son époux Mélénas lève son frère Agamemnon, une armée
menée. Poudre de la reine.
Agamemnon, une armée qui va assiéger Troie et remporter la victoire. Comment elle s'appelle?
La belle.
Hélène.
Mais oui, la belle Hélène.
Bravo, ma fille.
Vous pouvez, Alain.
Calmez-vous,
faut que je la pique. Appelez-moi le vétérinaire, il faut piquer Clémentine.
Je connais la baleine
par cœur. Mais calmez-vous, mais qu'est-ce que vous avez mangé encore?
C'est le jubilé de la reine d'Angleterre.
Non, moi j'étais en train de féliciter Pauline.
J'ai mangé de la ponce de brebis.
Et bravo Pauline, tu as été magnifique. Le bonus est à vous, ce bonus Britannicus, utilisez-les. Oh là là, quand vous le désirez. Oh, quelle merveille. Oh, vous savez quoi, j'ai envie de me lever quand on pense à une marché.
C'est le baguette?
Ah oui, c'est l'ambiway. Ben oui, vous pensez bien. Évidemment, j'adore ça aussi. Alors, on est proche de chez vous, Côte d'Armor, j'adore. Bonne chance, les amis. Dans un instant, trois questions. C'est Pauline qui va ouvrir le bal et ce sera pour l'intégralité des livres historiques Larousse. Vous êtes passionné par l'histoire, vous aimez RTL, vous avez raison, vous l'écoutez. 3210, c'est votre numéro de téléphone pour vous inscrire comme Pauline et son papa Alain. On se retrouve dans un instant.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Ah, le bonheur de retrouver la petite Pauline, 11 ans, qui est en classe de 6e, qui habite Lannion dans les Côtes d'Armor, qui est excellente, aux côtés de son papa Alain. Ça va Pauline?
Oui, très bien.
Pauline, voici tes trois premières questions pour le grand quiz. Tu étais remarquable à l'instant pour obtenir le bonus. Et alors, je sais que tu aimes l'antiquité gréco-romaine, mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale Élysée, hein, Clémentine. Comment tout ça fonctionne, les présidents hein, on a fait une petite
spéciale. C'est un peu une émission anecdotique sur l'Élysée que nous n'avons pas pu faire, ayant été à la fois au Puy du Fou, puis ensuite à Metz. Enfin, on s'est beaucoup déplacé avec RTL ces derniers temps. Donc, l'émission sur l'Élysée, c'est aujourd'hui. Mais vous allez voir que ce sont plutôt des anecdotes qui tiennent à l'histoire du lieu et sous forme de vrais
faux. Ça va bien vous amuser.
C'est tout à fait à votre portée, rassurez-vous.
Voici, Pauline, ta première question. Bonne chance, ma belle. Qui est le premier président de la République à s'installer à l'Élysée? N'ayez pas peur, j'ai deux propositions. Louis-Napoléon Bonaparte ou Adolphe Thiers? Je sais, ça fait peur comme ça, mais...
Thiers?
Aïe. Et non, le premier président à s'installer à l'Élysée, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, qui est d'ailleurs le premier président de la République française.
Et oui,
c'est ça,
premier président de la République française, élu le 10 décembre 1848 au suffrage universel. Précisons tout de suite masculin, naturellement, nous ne sommes pas encore concernés. Et le 12 décembre, l'Assemblée nationale assigne par décret l'Élysée nationale comme résidence du président de la République.
Mais alors dites-moi Clémentine, vous dites 10 décembre 1848 et il quitte l'Élysée en 1852?
Mais oui Laurent, parce qu'entre temps, il a fait son coup d'État. Hein. La Deuxième République sombre et c'est le Second Empire qui surgit à ce moment-là. Et celui qui devient donc Napoléon III le 2 décembre 1852, il s'installe aux Tuileries parce que c'était plus important, peut-être plus prestigieux comme résidence. Et donc l'année suivante, l'Élysée devient la résidence de sa fiancée Eugénie de Montijo.
L'Élysée redevient le palais présidentiel, cette fois-ci en 1871.
Oui, mais alors là encore, Adolphe Thiers va y faire quelques séjours, mais sa femme avait peur de Paris, hein, à cause de la commune probablement, elle préférait rester à Versailles. Et c'est à partir du successeur de Thiers, donc Patrick de MacMahon, que les présidents vont s'installer définitivement à l'Élysée. Ça c'est septembre 1874. Et à partir de ce moment-là, le palais restera jusqu'à nos jours la résidence officielle du président de la République.
Vous avez compris, voici une brève histoire du palais, et ce n'est pas fini, hein, du palais de l'Élysée. Détends-toi Pauline, c'est ton papa en fait qui a la pression, je l'entends. C'est mignon alors.
À peine.
Détendez-vous, il n'y a pas de souci.
Oui.
Voici la deuxième question à Pauline. Pour des raisons de sécurité, le palais de l'Élysée n'a pas de cave. Cave à vin, vous voyez. C'est vrai ou faux?
C'est faux.
Mais oui, bien joué. Quelle belle logique cette Pauline.
On imagine ça, pas de cave à l'Élysée. Hein.
Oh bah dites donc, faut voir ça, c'est faux bien sûr.
Oui, ils boivent beaucoup.
Monsieur le Président, si vous nous écoutez, t'as raison Pauline. Ah mais tiens, c'est exactement ça. Le palais de l'Élysée a bien une cave. Et quelle cave, tu as raison Pauline. La plus ancienne bouteille d'ailleurs que l'on y trouve est un premier cru de Sauternes, un château Rieussec de 1906.
Ah ça vous parle hein, Laurent.
Ah bah,
alors c'est une bouteille qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le président en exercice en 1906, en l'occurrence c'était Armand Falière, puisque la cave de l'Élysée n'a été aménagée qu'en 1947 par Vincent Auriol.
Alors on a équipé la cave en question question d'une climatisation 1982 et entièrement réaménagée en 1995. Elle possède, écoutez bien, 13 000 bouteilles sur lesquelles veille qui donc une sommelière.
Eh oui, une femme, hein, on n'avait pas le droit de vote en 48 avec Napoléon III, mais là, pour s'occuper du vin, on est bonne. Alors la cave de l'Élysée renferme évidemment les plus grands de nos vins. Pas question, pas qu'il y ait un vin californien, chilien ou australien, ça, no way. Alors cette cave est une vitrine de la production viticole française.
Chargée des achats, la sommelière reçoit des viticulteurs au palais, mais elle va aussi régulièrement visiter les vignes, s'informer.
Oui, alors c'est quand même très important. Vous savez, le président Auriol, qui est donc le créateur de cette cave en 47, on l'a dit, il avait coutume de dire aux viticulteurs qu'ils servaient la France à chaque fois qu'une bouteille de leur vin était ouverte à l'Élysée. Vive la France !
On peut quand même pas ouvrir, non, très honnêtement, tous les jours des crues exceptionnelles,
bah non,
Clem.
Non, Laurent, bien sûr, c'est pourquoi c'est à la demande seule du président de la République que peuvent être ouvertes les bouteilles d'exception. Et il arrive que des chefs d'État fassent savoir avant leur séjour à Paris qu'ils aimeraient bien goûter tel ou tel vin en particulier. Par exemple, le chancelier Schröder avait un faible pour le château Latour, premier cru de Pauillac, et le château Ikem. Hein,
bah nous aussi. Hein. Pareil, pas mieux. De nos jours, on sert trois vins à table sous la Troisième République. C'était plutôt cinq. En 1998, pour l'équipe de France de football qui venait de remporter la Coupe du Monde de foot, on s'en souvient, Cocorico, on a servi un château Aubryon 1986 et une vingtaine de champagnes millésimés.
Le tout servi et consommé avec modération, ça va de soi, Laurent.
Bien sûr. Enfin, Clémentine, on est là dans l'histoire, pas dans l'alcoolisation, évidemment. Dites-nous enfin quelques mots sur les vins préférés de nos présidents.
Ah, on en avait dit quelques mots, me semble-t-il. Enfin, ça fait toujours pas du bien de se le rappeler. Le général de Gaulle lui aimait les vins blancs d'Alsace, Pompidou. Préférait les Bordeaux, Giscard les Bordeaux jeunes. Mitterrand buvait rarement plus d'un verre de Bourgogne ou d'un grand Beaujolais. Et Jacques Chirac faisait également honneur à tous les vins, à tous les plats, à la bière, on sait aussi.
Quant à Nicolas Sarkozy, comme son lointain prédécesseur, il faut le savoir, Paul Doumer, il ne boit pas. Donc se contentant au moment des toasts officiels de lever son verre sans y toucher. Par contre, je ne sais pas ce que prend le président Hollande.
Moi non plus, hein. Écoutez,
si vous avez une info, n'hésitez pas, parce que ça, on ne l'a pas encore.
Voici la
rose. Voici ta troisième question, Pauline. Tu as déjà un point et 10 secondes pour la finale, un point pour l'intégralité des livres historiques Larousse. Bonne chance, Pauline. L'Élysée a donc une cave, on vient de le voir. Mais y trouve-t-on une chapelle à l'Élysée ? Est-ce qu'il y a une chapelle dans l'Élysée ?
Ben oui.
Oui, Pauline ! Mais elle est d'une logique, cette Pauline, elle a 11 ans. Elle est magnifique, Pauline. Oui, 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 l'Élysée
elle possède. Elle est magnifique.
Ah, en plus, bravo papa, c'est bien ça, j'adore. Elle dit merci, j'adore ça. L'Élysée possède une chapelle, les amis. Il y en a même eu plusieurs tout au long de son histoire, hein, Clémentine.
Oh oui, mais enfin, sur cette musique, on va se tirer à une balle. Là,
non, mais dites-moi.
C'est joyeux quand même.
C'est de circonstance.
Voilà. Alors oui, voilà, ça va mieux, oui. Alors jusqu'en 1805, il y avait une chapelle au fond du salon Murat et même une autre dans un coin du jardin d'hiver de l'Élysée, mais la plus récente, c'est une toute petite pièce au rez-de-chaussée du palais, dans l'aile qui longe la fameuse cour d'honneur.
Cette chapelle a été réduite des deux tiers sous Vincent Auriol. C'est drôle d'ailleurs, tiers Auriol.
Il en a fait des choses, Auriol. Hein, la cave, la chapelle réduite des deux tiers. Il préférait la bibine à la prière, manifestement.
Non, tu sais quoi, il préférait créer deux bureaux supplémentaires que d'avoir une grande chapelle.
Voilà, il travaillait beaucoup, notre président. Alors Yvonne de Gaulle, elle, était très attachée à cette petite chapelle extrêmement simple. Non seulement elle s'y rendait fréquemment en semaine, mais lorsque les de Gaulle ne se rendaient pas à Colombelles les week-ends, toute la famille assistait là à la messe, généralement célébré par un neveu du général de Gaulle, François de Gaulle, qui était père blanc.
Entre 69 et 95, cette petite chapelle a été peu utilisée, Clément.
Oui, on pensait même qu'elle ne survivrait pas à l'arrivée d'un président socialiste, mais pas du tout. François Mitterrand a interdit qu'on touche à la chapelle en question.
Et c'est Bernadette Chirac qui a fait faire les derniers travaux, semble-t-il.
Oui, avec Yvonne de Gaulle, Bernadette a été la première dame la plus attentive au sort de cette chapelle en raison de ses convictions religieuses, naturellement. Alors, cette chapelle, depuis 2007, elle sert de salle d'attente pour les visiteurs et on y remise aussi les cadeaux faits au président de la République. Alors est-ce que François Hollande va changer sa vocation? Nous verrons.
Voilà, aujourd'hui, spéciale émission sur l'Élysée. Vous saurez tout de ce palais, de son fonctionnement et de son histoire, évidemment. Deux bonnes réponses pour Pauline. Elle est bien notre championne, on l'adore la Pauline, hein, bravo. Deux bonnes réponses sur trois. Bon, pour papa, dans un instant, Alain, il y aura deux questions. Une bonne réponse suffit, l'intégralité des livres historiques. C'est dans la poche, il n'y a pas de problème. Pauline et Alain sont dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Vous écoutez le Grand Quiz des Histoires de France.
Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Et oui, c'est Jules et Mylène qui sont au 3210. Vous pouvez nous appeler pour vous inscrire comme l'ont fait Pauline et son papa Alain. Pauline qui a été excellente là, 11 ans. Elle est très très bonne. Hein. Bon, dites-moi Alain, deux questions, une bonne réponse suffit et vous avez toute l'intégralité des livres historiques Larousse. Ça vous va?
On va essayer.
Je le sens bien, Vanille et crainte. Toujours spéciale émission sur l'Elysée. Hein. Le chauffeur de François Mitterrand avait eu plusieurs accidents de la route ou n'avait pas son permis de conduire. C'est bien ça. Alors, le chauffeur de Mitterrand... Oh, dites donc, c'est limite d'adhérence derrière là.
Il n'avait pas son permis.
Eh bien, c'est bien, bravo.
C'est une bonne réponse.
Bon, hey, les livres historiques Larousse, c'est gagné les amis, hein, bravo. Alain et Pauline, ça c'est fait. Il n'avait pas son permis de conduire, vous avez raison. Enfin, en réalité, Pierre Tourlier, puisqu'il s'agit de lui, avait obtenu son permis à l'armée sans examen, hein, Clémentine.
Oui, ça fait partie de toutes ces histoires plus ou moins célèbres autour des chauffeurs présidentiels. Hein.
Oui, ouais, il y a eu le fameux Maroux, le chauffeur du général de Gaulle, qui par son self-control sauve la vie du général de Gaulle et de sa femme le jour de l'attentat du Petit Clamart, c'était le 22 août 62.
En effet, Laurent, mais alors Pierre Tourlier, pour en revenir à lui, le chauffeur de François Mitterrand, était déjà là le 10 mai 81 à Château-Chinon. Et c'est lui qui ramène François Mitterrand à Paris en ce jour mémorable. François Mitterrand à l'avant et Daniel à l'arrière.
Et ce Tourlier est une personnalité étonnante, hein, proche de l'OAS dans le passé. Il devient des années plus tard le chauffeur et garde du corps du leader socialiste. D'autant qu'au volant, François Mitterrand était un vrai danger
public. C'est ce qu'on raconte. Hein. Et alors Tourlier, il avait un look inattendu pour un chauffeur présidentiel avec son diamant dans l'oreille. Il menait lui aussi une double vie, ce qui n'avait probablement pas manqué de créer un lien particulier entre le président et lui-même.
Eh ben oui, parce que c'est lui qui emmène Mazarine à l'école et qui surnomme son patron, écoutez bien, Tonton.
Oui, tout à fait, ça vient de lui. Alors après 95, Tourlier a publié deux livres, Conduite à gauche en 2000 et Mon quotidien auprès de François Mitterrand en 2005.
Voici la deuxième question pour Alain. Écoutez bien, qui étaient Jugurtha, Samba et Baltique pour Valéry Giscard d'Estaing ? Et Mitterrand d'ailleurs, parce que... Qu'est-ce que ça pouvait être, Jugurtha, Samba, Baltique pour...
Des chiens?
Ben oui.
Ben oui, eh oui. Faut pas chercher midi à 14h. Hein.
Quoi? Tout à fait.
Effectivement, leurs chiens Samba et Jugurtha étaient les labradors qui furent offerts à Giscard par la reine d'Angleterre, parlons-en, puisque c'est aujourd'hui jubilé. Et Baltique était celui du président Mitterrand.
Oui, d'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing a posé dans Paris Match avec ses deux chiens. Et c'est avec eux que le grand public a découvert les animaux domestiques de ses présidents.
Jacques Chirac, lui aussi, avait un labrador. Il s'appelle Mascou, dont on prétend d'ailleurs qu'il a tué tous les canards de la pièce d'eau. les labradors des présidents ont surtout été de véritables cauchemars pour les jardiniers de l'Élysée. Hein,
alors, il y a les labradors, mais le plus heureux de tous ces chiens de l'Élysée fut certainement Sumo, le bichon maltais des Chirac, au point que lorsque Jacques Chirac a quitté l'Élysée, eh bien Sumo est devenu très agressif, il était déprimé le pauvre chien, et il a fallu l'installer à la campagne. Ouais.
Appelez-moi le veto, faut piquer Clémentine, écoutez. Alors pour ne pas déroger à la règle, Nicolas Sarkozy aussi a eu un labrador, évidemment, qui s'appelait pas Carla, mais Clara, qui lui a été offerte en octobre 2008 lors d'un voyage à Montréal. La famille compte aussi le chien Toumi,
Dumbledore. Dumbledore, le terrier. Ah, il y en a des animaux à l'Élysée.
On a l'impression d'être dans le...
Je sais pas si François Hollande a un labrador, lui. Ah, on verra
aussi. Ouais, c'est pareil, faut...
Ça en fait des questions essentielles sur l'Élysée.
On va s'en poser, je te le dis. Bon, dites donc, Alain et Pauline, vous avez tout gagné, là, pour l'instant. L'intégralité des livres historiques Larousse, 40 secondes pour la finale, tout va bien. Dans un instant, on va jouer pour l'ordinateur portable. Et je pense que c'est pour Pauline, hein, Alain.
Tout à fait.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Ah oui, ça c'est bien alors.
Là on y est. Hein.
On y est tout à fait, mais c'est vrai que réflexion faite, on aurait pu faire un bonus avec aux Champs-Élysées de Joe Dassin aussi.
Oui, c'est vrai qu'on parle du palais de l'Élysée, certes. Vous savez que c'est une mythologie grecque, les Champs-Élysées.
Yes.
Ou simplement Élysée qui veut dire
frappé par la foudre. On aurait pu faire l'émission en anglais aussi, Laurent.
Si vous voulez.
So, the question is interesting.
Yes, we can.
Who says about Pétain, it was a big man?
Non, mais dites donc, posez la question à Alain, il ne sait même pas que c'est à lui de jouer. Alain, c'est à vous. Faut trois questions à l'ordinateur portable de votre fille. Ah, dites donc,
moi,
Clémentine.
Je fais des suggestions un peu là.
C'est une question, ça m'intéresse.
Ah, bah très bien.
Et ça m'intéresse histoire.
I am very interested about this question.
Yes. Listen to me. Alain, bonne chance. Voici votre question. qui a dit de Pétain, c'est un grand homme. Il est mort en 1925. C'est Léon Blum ou le général de Gaulle? J'ai rien fait.
Qui a pu dire ça de Pétain, Alain?
Je vais me faire penser.
Général de Gaulle.
Mais oui, bravo.
Oui.
En 1925. Je vais me faire tomber. Je vous en prie. Le général de Gaulle, donc, c'était en 1941 à Damas, alors que Pétain était chef de l'État français. Écoutez bien, mais pourquoi 1925 et pas 1940, ce qui aurait été plus logique,
Clem?
Parce
que ça, Laurent, c'est lié à l'histoire de ces deux hommes. Hein. Ils se connaissaient bien. Bah, ils se sont rencontrés la première fois en 1912. De Gaulle venait de sortir sous-lieutenant de Saint-Cyr et il est affecté au 33e régiment d'infanterie sous le commandement précisément du colonel Pétain.
L'entente est alors rapide car ils sont tous les deux en commun, une indépendance d'esprit qui va à l'encontre d'ailleurs du courant général de l'armée à cette époque.
Et Pétain d'ailleurs va beaucoup apprécier ce jeune officier qu'il ne cessera d'encenser. Quand la guerre de 14 éclate, Pétain qui avait été mis sur la touche fait un retour triomphal, on le sait si l'on peut dire, jusqu'à devenir maréchal en 1918. Il n'oublie pas De Gaulle et en 25, il appelle le jeune capitaine pour l'intégrer à son état-major particulier.
Alors ils travaillent ensemble et Pétain lui commande même un livre qui s'appelle Le Soldat.
Tout à fait, De Gaulle a été la plume de Pétain, mais voilà le moment de la rupture, c'est que De Gaulle apprend qu'un colonel est chargé de réécrire le livre. Or, il pense avec raison avoir un certain talent pour l'écriture, il est très blessé de cette histoire, et De Gaulle écrira désormais sous son nom, et c'est la rupture entre les deux hommes qui est entamée par une sorte de brouille littéraire, en quelque sorte, rupture qui naturellement deviendra totale en juin 40, pour les raisons qu'on connaît bien.
Mais qu'est-ce que c'est beau cette phrase, c'était un grand homme, il est mort en 1925, le type 1940,
c'est cruel, hein, c'est une grande cruauté.
Oui, De Gaulle, magnifique. À lire tout ça dans le numéro hors-série de Ça m'intéresse Histoire, dans le chapitre Histoire de destin, l'article intitulé Le général et le maréchal.
Oh, you mean the general and the maréchal?
Yes.
Voici non, votre en anglais, deuxième... je touche ma bille quand même.
Votre deuxième question pour un ordinateur portable, la voici, Alain, bonne chance à vous. Toujours spécial Élysée aujourd'hui que ce grand quiz des histoires de France. François Mitterrand a failli perdre le code secret permettant de déclencher le feu nucléaire ou a laissé son labrador, dont nous parlions tout à l'heure, mâchouiller une petite plaque indiquant le code. Alors, est-ce qu'il aurait perdu le code secret ou est-ce que c'est le labrador qui a mâchouillé une plaque?
Le labrador qui aurait mâchouillé une plaque?
Mais non, François Mitterrand a failli perdre le code secret permettant de déclencher le feu nucléaire. Oui, Alain, Clem.
Ça me paraît tellement...
Ça paraît incroyable, mais on va vous expliquer.
Oui. Ah, ça, c'est encore une anecdote qui est racontée dans le livre de Patrice Duhamel et Santa Maria sur l'histoire de l'Élysée. Alors, c'est en effet cet aveu incroyable, François Mitterrand le fit à Jacques Séguéla, qui l'a raconté par la suite. Mitterrand lui a raconté que pendant la passation de pouvoir, Giscard lui tente une petite plaque pendant à une chaîne en or sur laquelle est inscrit le numéro du code nucléaire.
Mitterrand la glisse dans sa poche et s'empresse de l'oublier dans ce costume qui va où? Chez le teinturier.
Oui, alors j'imaginais le pire, explique le nouveau président au cours de ce dîner amical, le code se perdant dans les méandres du nettoyage à sec. J'envoyais aussitôt un motard qui évita la catastrophe. 30 minutes plus tard, je récupérais la force atomique et la mis à mon cou.
Derrière cette anecdote savoureuse, évidemment, il y a le fantasme du code nucléaire.
Oui, alors là encore, à ce sujet, eh bien, Philippe de Gaulle a raconté dans ses mémoires que son père ne quittait jamais le médaillon en question, médaillon dans lequel il avait mis une photo de sa fille Anne.
Alors de nos jours, les présidents ont toujours ce numéro sur eux ou à portée de main évidemment. Il y a une mallette ultra sécurisée qui est portée en permanence par leur aide de camp. C'est le fameux code qui sert à assurer l'identification du président, fameux feu nucléaire.
En tout cas, quoi qu'il en soit, mâchouillé par un labrador ou perdu au pressing, c'est tout aussi improbable et amusant.
Voici votre troisième question. Un point pour l'ordinateur portable. Bonne chance Alain. Les lettres destinées au président de la République ont pour caractéristique d'être traitées dans un délai d'un mois maximum ou d'être dispensées d'affranchissement.
Elles sont dispensées d'affranchissement.
Bravo. Les lettres destinées au président de la République ont pour caractéristique d'être dispensées d'affranchissement. C'est une tradition que vous avez peut-être usitée, Alain.
Voilà, vous pouvez lui écrire tous les jours si vous voulez. Ça sera gratuit si vous avez vraiment des choses intéressantes à lui dire. Alors, qu'est branlée derrière la tour Eiffel, dans une dépendance officielle de l'Élysée, une centaine de personnes travaillent au service courrier. Même si le nombre de lettres a considérablement diminué avec l'apparition d'Internet, naturellement.
Tout est lu, les réponses sont le plus souvent des lettres types qui correspondent aux sujets les plus généralement traités, évidemment. Recherche d'emploi, demande d'intervention, invitations diverses. Parfois, plus rarement, évidemment, elles font l'objet d'une réponse personnalisée.
Alors là, ça dépend des présidents, Laurent, voyez-vous, parce que De Gaulle, lui, répondait de sa main à certaines lettres sur papier en tête portant la simple mention « Le général De Gaulle ». Il lui arrivait de rédiger lui-même le nom et l'adresse sur l'enveloppe. Il remerciait toujours en personne pour un livre. Question d'éducation autant que de courtoisie entre écrivains.
Alors, Mitterrand, vous savez quoi? Il faisait de même, en fait. Il remerciait toujours pour un livre et répondait également toujours avec la même encre bleue.
Ah, c'est un peu une question de génération, ça. Alors, parfois, la lettre reçue par le président de la République est médiatisée. Ce fut le cas, par exemple, lorsqu'il reçut la lettre de cette mère qui atteinte d'un cancer incurable, savait qu'elle allait mourir avant d'avoir pu aider son fils tétraplégique à quitter ce monde paisiblement. Jacques Chirac, lui aussi, avait reçu ce genre de lettre de Vincent Imbert, que son médecin, cette fois, aidera à mourir. Donc, voilà, les lettres au président de la République sont, en tout cas, toutes lues, toutes traitées, parfois publiées.
Voilà les informations aujourd'hui. Vous l'avez compris dans ce grand quiz des histoires de France sur RTL consacré au Palais de l'Élysée et à son fonctionnement. Voici 2 points pour l'ordinateur portable. Bien joué Alain. Et en plus, vous laissez à votre fille le bonus Britannicus. Donc Pauline, on se réjouit d'avance avec les 2 questions qui arrivent. Mais
on l'écoutera de toute façon le bonus.
Oui.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Eh oui, avec du côté de Lannion, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, il y a Alain et Pauline, sa fille de 11 ans. On adore Pauline. Elle a son bonus Britannicus, elle a 2 questions. Ah là, voilà. Oh, yaya, c'est bon ça. Et elle peut l'utiliser quand elle le désire.
Pauline, nous souhaiterions ta photographie.
Oui,
on veut. On va te mettre à côté de Tom, parce que tu dois être une de nos plus jeunes candidates depuis le tout début de l'émission.
Et brillante, dites-moi, Clémentine.
Une des plus jeunes et des plus brillantes.
Mais si, ma belle.
Voici on croirait la reine d'Angleterre sur son bateau. Merci.
Voici ta question, Pauline. Bonne chance. Sur son portrait officiel, Nicolas Sarkozy est le premier à avoir posé dans la bibliothèque ou avec le drapeau européen. Vous savez, il y a un portrait officiel qui est...
Avec le drapeau européen ?
Mais oui !
Oh là 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 là. Mais cette Pauline ne tente même pas son bonus.
Elle est très très spectaculaire, Pauline.
Elle est spectaculaire, notre copine Pauline. Pour leur photo...
Pauline, tu ne veux pas venir remplacer le réalisateur ? Parce qu'il n'a plus beaucoup d'idées.
Pour leurs photos officielles, le général de Gaulle et Georges Pompidou avaient déjà posé debout dans la bibliothèque de l'Élysée. Mais c'était des photos très académiques,
plan-plan. En jaquette,
alors,
hein.
C'est ça, ils ont posé en jaquette, absolument, avec la Grand Croix de la Légion d'honneur, quand même. Arborant un visage très grave, vous voyez. Des photos qui paraissent d'ailleurs surannées de nos jours. Le général de Gaulle, notamment, pose sa main sur un livre posé sur le bureau. Ça manque totalement de naturel, évidemment. Nicolas Sarkozy a également posé dans la bibliothèque. Mais pour la première fois, le drapeau européen fait son apparition dans son dos.
Hein. Et oui, alors cette photo officielle, hein, on en plaisante un petit peu, mais c'est très important, c'est très symbolique. Je vous rappelle qu'elle est diffusée dans plus de 36 000 mairies et dans toutes les écoles du territoire.
Et c'est Philippe Varin, connu pour ses clichés de star, qui a réalisé la photographie du président. Il avait aussi réalisé l'affiche « Ensemble, tout devient possible » du candidat. Alors, vous nous dites que le général de Gaulle et Pompidou avaient aussi posé debout dans la bibliothèque. Mais dites-moi, c'était pas le cas également pour François Mitterrand,
si, Laurent,
Clémentine ?
Vous avez raison, Laurent. Mitterrand a posé dans la bibliothèque, mais assis et tenant un livre entre les mains. Mmh. Il semble relever les yeux d'un ouvrage qu'il tient entre ses mains, et c'est avec les Essais de Montaigne que le chef d'État avait souhaité s'afficher devant les Français. Tout au long de sa carrière politique, François Mitterrand a en effet cherché à afficher une image d'homme cultivé.
Absolument, Giscard d'Estaing lui avait innové en posant devant un drapeau français en mouvement pour donner une image en fait plus vivante. Hein. Et pour la première fois aussi, le président regarde les Français dans les yeux et il esquisse même un léger sourire.
Ah, merci monsieur le président. Et Jacques Chirac, lui, fut le premier de nos présidents et le seul à avoir posé dans le parc de l'Élysée, peut-être pour conforter son image d'amoureux de la ruralité, puis pour rendre une petite visite à ses labradors, puisqu'il en avait...
qui avait bouloté les canards.
Voilà.
Vous savez pourquoi également on a fait cette question, c'est que cette semaine va être dévoilée la première photo officielle donc du président Hollande.
Alors où va-t-il poser? Dans la bibliothèque avec un chandelier
Salle
de bain?
Non, c'est Madame Rose, ça, le chandelier dans la bibliothèque.
Rose, voilà.
Non, et vous savez qui a fait la photo? Ça, par contre, je le sais, c'est Raymond Depardon.
Ah, intéressant.
Qui est un très grand photographe.
Ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il veut poser, comment, assis, debout dans la bibliothèque, avec les canards, avec son labrador.
Voici une minute pour la finale, les amis. Pauline, il te reste encore ton bonus Britannicus. Hein. Tu peux l'utiliser, ça nous permettrait d'écouter le bagat,
oh,
ça nous plaît.
Ça serait gentil.
Hein, fais cet effort, même si tu as la réponse. Écoute ta question, Pauline. Un nouvel académicien ne peut être reçu officiellement sous la coupole sans avoir eu auparavant une audience avec le président de la République ou sans la présence du président de la République.
Ben, vous allez être content, j'ai utilisé le bonus.
Ouais !
Merci ! Vous imaginez que le bateau de la reine d'Angleterre coule sur la Tamise ?
Mais vous êtes folle.
Pendant que le bagad de Nambiwe joue sur les quais.
Écoutez ça si c'est beau quand même.
J'espère qu'il ne coule pas.
Ah non, 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 c'est trop joli. Merci Pauline d'avoir utilisé ton joker Britannicus aujourd'hui.
Pas de rien.
Elle me dit de rien. Alors la réponse, quelle est-elle ? Eh bien, un nouvel académicien ne peut être reçu officiellement sous la coupole sans avoir eu auparavant une audience avec le président de la République. En tant que protecteur de l'Académie française, le président de la République doit recevoir chaque académicien élu par ses pairs.
Et oui, alors ça c'est une chose qui est assez peu connue, mais cette audience à l'Élysée est impérative. Elle signifie que le président de la République approuve l'élection et dès lors l'installation sous la coupole du nouvel académicien peut être organisée.
Alors en pratique, j'imagine que le président approuve systématiquement le vote, non ou pas ?
Oui, en effet, Laurent, une exception près, figurez-vous.
Ah bon ? Mais de qui s'agit-il ?
Eh bien, c'était en 59 et le général de Gaulle a refusé de recevoir l'écrivain Paul Morand en raison des relations que celui-ci avait eues avec l'occupant nazi et de ses liens étroits avec le régime de Vichy lorsqu'il était ambassadeur de France en Tunisie.
Mais attendez, mais Paul Morand, il a bien été académicien, quand même ?
Oui, mais seulement 9 ans plus tard, Laurent, de Gaulle voulait alors revenir sur sa position. Il a donc reçu le directeur de l'académie, à l'époque un certain Jean Miscler, et lui aurait dit, en tout cas c'est ce que raconte Alain Perfit, considérons que j'ai reçu Paul Morand.
C'est
alors,
magnifique.
Vous pouvez, c'est beau, hein,
c'est
bien
beau,
de lui. Alors, vous pouvez retrouver cette anecdote et bien d'autres déjà évoquées dans cette émission, dans ce livre déjà cité de Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, L'Élysée, coulisses et secrets d'un palais, c'est édité chez Plon.
Oui, c'est passionnant hein, ce livre. Enfin, nous, on s'est régalé, on l'a mis sur RTL.fr si vous voulez avoir des infos, c'est vraiment les coulisses de l'Élysée. Agathe, Mylène et Jules sont toujours là au 3210. Hein. Si vous voulez nous appeler, vous inscrire, faire comme Pauline et Alain, il n'y a pas de souci. 1 minute 10 pour la finale. Et Pauline, t'as ton ordinateur portable, tu l'as gagné.
Ouais, trop cool.
Ouais, trop cool, Pauline. Ah, c'est bien. Bon, les amis, on va vous retrouver dans un instant. 1 minute 10 pour la finale, ça devrait le faire. Et là, vous partirez, évidemment, vous l'avez dit, hein, dans ce magnifique château à Barneville-Carteret. On adore voilà, l'hôtel des îles. On l'a mis sur RTL.fr également. Vous allez vous régaler un séjour pour 4 personnes.
Hein, avec une très belle vue sur Jersey, les îlots.
Ah, il y a Mont-Saint-Michel, pas loin.
Oui, ça, oui,
on parle. Bon, enfin, bah, bon.
On peut aller voir la maison de Victor Hugo, comme ça.
Si dites donc, on se désintègre et on se reconstitue dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Avec Pauline et son papa Alain, ils ont 1 minute 10 pour la finale et partiront pour un séjour de 4 personnes à l'île de Barneville-Carteret dans la Manche. Très joli, hôtel des îles. Êtes-vous prêts tous les deux, Pauline et Alain ?
Oui, nous sommes prêts.
Bon, voici vos 3 questions, 1 minute 10. Attention, c'est parti. Qui est élu président du gouvernement provisoire de la République française le 3 juin 1944 ? 44, c'est qui ?
Charles de Gaulle.
Bravo. Oui. Quel pape disparaît le 3 juin 1963 ?
Jean 23.
Bravo.
Bravo.
Quel événement marque la naissance de l'Eurovision à la télévision le 2 juin 1953 ? Vous savez... C'est aujourd'hui.
La retransmission du.
Oui.
Oui.
Mariage. Du couronnement, oui. D'Elisabeth II.
Bravo! Bravo, Alain!
Et en plus, en 1963, ma maman, elle est née.
Oh, chérie, comme c'est mignon, Pauline. Et dis donc, Pauline, t'as souhaité une bonne fête à ta maman?
Bien sûr.
Ah bon, ça va, c'est bien.
Je voudrais en profiter pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans.
C'est bien.
Et pour envoyer un petit coucou des pirates à tous ceux qui nous ont reconnus, nous reconnaîtront.
Des pirates, ça c'est mignon, vous êtes des pirates. On adore
ça. Nous sommes la famille pirate.
Oh,
j'adore.
Bah, on avait bien choisi le bagad de l'Ambioué, dites donc.
Ah, oui. Voilà. Vous savez qu'on aime ça, nous on est supporters de l'Hermione, vous voyez le départ.
Tout à fait.
Moi j'ai le mal de mer, mais j'aime bien.
Ah, mais moi j'ai envie de traverser. On va vous faire vivre tout ça, je peux vous dire. On adore ça, on est comme vous, on est des pirates aussi.
Bravo, hein, parce que surtout sur le pape, là, un peu dans l'émotion,
c'est pas facile,
Jean XXIII, il fallait trouver. Angelo Giuseppe Roncalli, élu pape en 58 à 77 ans, le pape de Vatican II, mais qui mourra, hélas, avant de voir la conclusion de ce concile.
Vous avez été magnifiques, hein, tous les deux, Alain et Pauline. Pauline, tu nous envoies ta photo, on veut te voir, parce que tu es tellement...
Tout à fait, tu nous as ravis,
ton sourire, voilà, t'as été excellente, tu réponds très vite, c'est remarquable, bravo. Hein.
Bravo,
championne.
Bravo. Dis donc, je voulais juste te dire aussi que souvent, on s'imagine que c'était Léon Zitrone qui avait commenté le
couronnement.
Pas du tout, c'était Jacques Salbert, figurez-vous. Donc, ouais. Bravo, donc il faut lui rendre hommage à Jacques Salbert. Oui.
Qui après est parti aux États-Unis, c'était un correspondant américain,
Je sais pas, j'étais pas né.
Non, moi non plus. Bon, bravo à tous les deux, hein. Pauline et Alain, vous avez régalé. Aujourd'hui, vous avez tout raflé, hein. vous avez tout gagné. C'est bien mérité, croyez-moi. On est heureux pour vous.
On compte sur vous pour une petite carte postale et la photo.
Et la photo de Pauline.
Voilà.
Oui, et puis je voulais faire un coucou à Sun Matlas en 6ème A. Et puis au Bretonnant avec.
Merci Pauline, on t'embrasse très fort, c'est fait. Et ça va les toucher, évidemment. Dans un instant, les amis, vous avez rendez-vous avec la liste préférée de notre ami Jean-Jacques. Ah, c'est Véronique Sanson qui est là, je vais l'embrasser. Tiens, je vais rester là un petit peu. Voilà, tout ça est en direct, ça se passe comme ça sur RTL.
Vous écoutez RTL.